Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias. Je m'appelle Steven Jambot. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. On va parler de sport cette semaine et notamment de football avec la Coupe du Monde féminine qui a débuté il y a quelques jours. Cet événement majeur était pour moi une excellente occasion de recevoir Jérôme Cazadieu qui est le directeur de la rédaction du journal L'Équipe. Dans la deuxième partie de l'émission, on accueillera Christophe Jouy du service des sports de RFI qui vous fera vivre sur notre antenne la Coupe d'Afrique des Nations de football. Elle débute, je vous le rappelle, vendredi en Égypte. Enfin, Mondo Blog Audio nous emmènera à Dakar pour parler là encore de la CAN, une grande fête qui fait rêver petits et grands.
RFI.
Bonjour Jérôme Cazadieu.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la rédaction de L'Équipe et la Coupe du Monde féminine de football se déroule actuellement en France. Alors, vous avez décidé, avec vos rédactions, de ne pas passer à côté, mieux vous déployez un dispositif comparable à la dernière Coupe du Monde masculine, celle-là de 2018. Pourquoi ?
On a vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose dans la société française, qu'il se passe quelque chose chez nos lecteurs, que l'équipe de France féminine est aujourd'hui une équipe qui a vraiment beaucoup, beaucoup progressé ces dernières années, qu'on a, je dirais, un élément d'alignement de planète, on va dire, qui nous amène à avoir une couverture qui est l'équivalent de la couverture des hommes. Bien sûr, parce que cette Coupe du Monde se déroule en France, parce que l'équipe de France fait partie des favoris, et donc on veut faire vivre cette Coupe du Monde du mieux possible, et cette intuition s'est confirmée dès le premier match, et je crois même dès le deuxième match, si j'en crois les audiences des chaînes. On sent que le terme Coupe du Monde, bah, ça éveille une espèce de magie, de féerie chez nos lecteurs, chez nos lectrices, et donc, on va essayer de proposer, et on propose déjà un traitement qui est le plus exhaustif possible sur cette compétition.
C'est-à-dire combien de pages chaque jour?
Alors, moi, je calcule pas en pages parce qu'on a aussi le numérique, la vidéo, le gratuit, le payant, etc. Mais je dirais qu'aujourd'hui, nous, on a, pour l'ouverture de la Coupe du Monde, si vous prenez le cas du journal, on était sur 16 pages consacrées à la Coupe du Monde féminine, à la fois l'équipe de France, les enjeux, c'est une compétition qui a lieu en France, donc il fallait vraiment le mettre en avant. Présenter aussi les joueuses, parce que les joueuses n'ont pas la notoriété aujourd'hui des garçons, à la fois les françaises, mais aussi les étrangères. Présenter aussi les autres pays, et puis, comme on accueille cet événement, on a beaucoup de supporters qui vont venir, beaucoup de supportrices, de familles, avec une population dans les stades qui n'est pas tout à fait la même que celle pour les garçons, qui est plus familiale. Et l'idée, c'était aussi de les montrer, de raconter des histoires, de montrer aussi les lieux, puisque la Coupe du Monde se déroule dans un certain nombre de villes, Paris, évidemment. On en a Le Havre, Rennes, Nice, Lyon. Donc l'idée, c'était vraiment de raconter cette Coupe du Monde sous tous ses aspects.
Est-ce que vous voyez déjà un effet Coupe du Monde féminine sur les ventes de ces derniers jours et sur le trafic sur vos environnements numériques?
Alors, je peux mesurer le trafic, parce que le trafic est en temps réel. Donc sur le trafic, on voit que ça intéresse quand même plutôt nos lecteurs. Après, ce qui intéresse le plus nos lecteurs, c'est la vitrine de cette Coupe du Monde. La vitrine du football féminin, c'est l'équipe de France. Voilà, on fait des audiences qui sont plutôt très bonnes. Alors nous, c'est toujours pareil, hein, nos lives marche d'autant plus si le match est diffusé sur une chaîne privée. Là, il est diffusé sur une chaîne publique et sur une chaîne privée. Donc, nos lives sont pas obligatoirement extrêmement élevés, mais je dirais que c'est dans la droite ligne des matchs de l'équipe de France masculine. Donc, de ce point de vue, on est plutôt content. Sur les ventes au numéro, on n'a pas encore assez de recul. J'aurai des premières tendances, je dirais, en fin de semaine. Mais j'ai du mal à croire que les audiences enregistrées par TF1 n'aient pas une incidence aussi, sur nos résultats. Je crois, voilà, j'ai la conviction que nos ventes en kiosque vont être meilleures.
Et sur votre site, vous comptez 3 millions de visiteurs uniques chaque jour.
Oui.
Ce qui est intéressant aussi, c'est le temps passé par utilisateur, qui est très élevé par rapport à un site d'information classique. Ça, c'est dû au live notamment?
Alors ça, c'est dû au live. Alors c'est dû au live. C'est dû aussi à certains types de contenus qu'on a développés. Par exemple, les podcasts. On sait que globalement, quand quelqu'un écoute un podcast, il l'écoute du début jusqu'à la fin. On a lancé aussi en 2013 l'équipe Explore, qui est une marque numérique, hein, sur l'équipe.fr, qui est très innovante, qui est sur les longs formats, sur des formats stories, des formats audio, des formats vidéo, où là, on a des taux d'engagement qui sont extrêmement élevés. Et puis, ce qu'on note surtout, c'est que, je dirais, notre basculement sur le numérique avec une offre gratuite, une offre payante qui est toujours plus riche, fait qu'on a de plus en plus de pages vues, voilà, par visite. Donc quelqu'un qui vient, par exemple, se connecter sur l'équipe.fr, bah avant il venait pour un article et il repartait tout de suite après, bah il va rester, il va faire un deuxième article, un troisième article et parfois un quatrième article. Et s'il est abonné, et bah il peut venir 4 à 5 fois, parfois 6 fois par jour, et il consomme en moyenne entre 8 et 10 articles. C'est-à-dire que dans une journée, un abonné moyen, il est à 45-50 articles ou contenus par jour consommés. Donc, on a créé une forme d'addiction, voilà.
C'est une forte notoriété de marque avec un taux de rétention assez impressionnant, comme on dirait.
Oui. Évidemment, l'équipe a une notoriété qui est extrêmement forte. Un des gros drivers de notre audience, c'est évidemment les lives, hein, puisqu'on propose, l'intégralité des matchs de football, de rugby, de tennis. Voilà, quel que soit l'événement qui se déroule dans le monde, on a la possibilité de le suivre en live sur l'équipe. Mais on a aussi développé tout autour, voilà, ce qui est notre force. L'équipe, à la base, c'était un média de passion il y a très, très longtemps, je dirais. C'est devenu un média de passion et je dirais de statistiques, puisque le sport, ce sont aussi des chiffres, des classements, des buteurs, des choses comme ça. Et je dirais que depuis 4 ou 5 ans, on est devenu un média d'information, parce que voilà, aujourd'hui, l'information sportive, elle existe partout. Hein. Elle est à la fois sur des chaînes payantes, des chaînes gratuites, mais elle est aussi en radio, elle est également dans des journaux généralistes. Hein. Le Monde ou Le Figaro font beaucoup de sport. Donc pour nous, c'était important, voilà, de se distinguer des autres. Pour se distinguer des autres, l'information, c'est vraiment une offre, une promesse qui fait la différence auprès de nos abonnés et de nos lecteurs.
Et pourtant, le quotidien, qui est au format tabloïd depuis 2015, continue à bien se vendre. Donc, il est vendu 1,70€ en semaine, 2,70€ le week-end.
Le samedi, précisément.
Vous revendiquez 3 millions de lecteurs chaque jour et votre diffusion en France continue à progresser au global. Si j'ai bien compris, 2/3 de votre diffusion payante en France, c'est de la vente au numéro, papier.
C'est exact.
Et un tiers, c'est sur le numérique, c'est ça?
C'est exact.
Oui, donc, vous arrivez quand même à continuer à croître.
Bien sûr. Alors nous, cette transformation digitale ne se fait pas sans une vraie croyance dans le papier. Et voilà, pour nous, le papier, on y croit. C'est le format historique de l'équipe, c'est le support historique de l'équipe. On a un attachement qui est un attachement extrêmement fort. Donc évidemment, on essaie de faire en sorte. On n'a jamais voulu faire croire à notre lecteur qu'on allait faire d'un journal un site ou un site un journal. On respecte quand même ces deux univers. Mais pour le journal, nous, on a des temps forts. Ces temps forts, ce sont les événements.
Et vous appuyez autour de ces événements.
Et on s'appuie très fortement autour de ces événements. Donc, par exemple, là, depuis le début du mois de juin, on a eu la chance d'avoir un tournoi de Roland-Garros exceptionnel. Avec à la fois Federer, Nadal, Djokovic qui étaient présents, des Français qui ont été plutôt pas mal finalement. Ils ont fait une bonne première semaine. Mais derrière, on savait qu'on allait avoir, la Coupe du Monde féminine. Avec en plus un peu de rugby qui démarre à la fin.
Donc, et puis le Tour de France qui arrive.
Et le Tour de France qui arrive. Donc on essaie vraiment de travailler pour à la fois raconter des histoires, bien informer nos lecteurs, créer des événements, être capable de réagir par rapport à un événement. Voilà, on sent que l'engouement qui entoure l'équipe de France féminine va nous amener à augmenter, on va dire, notre exigence, notre capacité à rendre quasiment unique le journal chaque jour.
Avec notre prochain invité, Christophe Jousset du service des sports de RFI, on va parler de la CAN 2019. Comment l'équipe va couvrir cette compétition?
Alors nous, la CAN, on va la couvrir, on va pas la couvrir énormément, je dois l'avouer. On en voit.
Pourquoi?
Ça intéresse et ça n'intéresse pas nos lecteurs. C'est ça qui est un peu compliqué. Mais on croit fortement, en tout cas, au foot africain. Voilà.
Vous, vos audiences africaines sont faibles pour l'instant?
Non, elles sont pas faibles. Elles sont très fortes, notamment sur France Football, voilà, qui est une marque, moi que je dirige aussi France Football, qui est dans l'univers de l'équipe. C'est, je crois, 15 à 20% du trafic de francefootball.fr, donc c'est extrêmement important. Par exemple, quand on fait le Ballon d'Or, on sait qu'on a un pourcentage très élevé d'entrée sur nos supports via l'Afrique. Donc je dirais que historiquement, c'est plus France Foot qui a toujours été tourné vers l'Afrique, mais on a aussi un certain nombre on estime à peu près 9% de nos internautes et mobinautes qui viennent de l'étranger, et la majorité de ces 9%, c'est plutôt d'origine du continent africain, plutôt francophone, bien évidemment.
Merci Jérôme Cazadieu.
Merci à vous.
Avant de poursuivre et d'accueillir Christophe Jousset pour parler de la CAN, savez-vous que le New York Times ne publiera plus de dessins politiques dans son édition internationale? C'est ce que l'on a appris lundi de la part du grand quotidien américain. Cette décision radicale fait suite à une polémique née après une caricature publiée en avril qui montrait le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, une caricature jugée antisémite. Depuis de nombreuses années déjà, l'édition américaine du journal n'avait plus de dessins dessin politique. Cela devrait donc être le cas aussi dans l'édition internationale, et ce à compter du 1er juillet. L'affaire, en tout cas, pose de sérieuses questions et fait réagir. Le dessinateur français Plantu, fondateur de l'association Cartooning for Peace, se dit inquiet pour l'avenir de nos démocraties et la liberté d'expression. Vous êtes toujours à l'écoute ? Allez, on va parler de la Cannes, là, maintenant, tout de suite, avec Christophe Jousset.
Atelier@rfi.fr.
Bonjour Christophe Jousset.
Bonjour Steven.
Vous êtes journaliste au service des sports de RFI. Alors la Coupe d'Afrique des Nations s'ouvre vendredi 21 juin en Égypte. La Cannes, pour vous, j'imagine que c'est un moment super important.
Oui, c'est probablement le moment le plus important, celui qu'on attend tous les deux ans quand on travaille au service des sports de RFI, parce que c'est la grande fête du foot africain. Et c'est quelque chose qui rythme notre vie sur le long terme dans cette grande et belle radio.
Alors vous, c'est votre combienième Cannes cette année ?
Ça va être la 11e. J'ai commencé en 2000 sur la Cannes, co-organisée par le Nigeria et le Ghana, et gagnée par le Cameroun.
Et le dispositif antenne de RFI cette année sur la Cannes, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un dispositif sans doute rodé pour nous, que tous les deux ans on remet en marche, ou est-ce qu'on évolue un petit peu ?
Là, il y a un changement majeur cette année, du fait du changement de format de la compétition, puisqu'on passe de 16 à 24 pays, c'est une grande première, et ça fait beaucoup de matchs en plus. Rendez-vous compte que de 16 à 24 pays, on augmente quand même de 50% le plateau. Ce qui nous a obligés, alors jusqu'à présent, notre principe de couverture, c'était de couvrir pour les commentaires en direct absolument tous les matchs, donc les 32. Là, c'est plus possible.
Et donc on fait quoi ? On fait des choix ?
On est obligé de faire des choix. On est obligé de faire des choix, effectivement, en fonction des attentes de nos auditeurs, fort logiquement. Donc on va se concentrer sur les plus grandes affiches, sur les pays francophones, bien entendu, et en essayant de couvrir un maximum de matchs. Ça fera quand même une quarantaine de matchs, donc ça fait du boulot pour tout le monde. On a été obligé d'élargir notre effectif, notre dispositif, que ce soit au niveau des journalistes, au niveau des techniciens et au niveau de la logistique.
Au niveau de l'organisation, pour l'instant, est-ce qu'on est dans les temps ?
On est plutôt confiant de ce point de vue-là, puisque l'Égypte est un grand pays de football et qui a déjà organisé à plusieurs reprises une Coupe d'Afrique des Nations. Là, le délai était court parce qu'il y a eu évidemment le feuilleton du Cameroun désigné organisateur et finalement à qui on a retiré l'organisation de cette CAN 2019. Donc, on va voir sur place, on va juger sur pièce. Il y aura sans doute quelques petits problèmes comme à chaque fois, mais globalement, il n'y a pas de raison de s'attendre à une CAN mal organisée.
Comment ça se passe pour les journalistes, une CAN ? Comment est-ce qu'on la couvre ?
On la prépare déjà beaucoup avant de partir, avec l'attente, notamment avec le suivi des éliminatoires de la CAN, évidemment, avec l'attente des listes des 23, et ça vient de tomber cette semaine, puisque la date limite, c'était mardi soir pour que chaque pays dépose auprès de la CAF sa liste des 23 joueurs sélectionnés. Et dès qu'on a la liste des joueurs qu'on va voir évoluer sous nos yeux, eh bien, on cherche sur Internet. C'est beaucoup plus facile de préparer une CAN aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Là, on a toutes les infos dispo sur Internet pour entrer dans l'intimité du parcours, de la carrière de tel ou tel joueur.
Est-ce que vous avez des souvenirs, des anecdotes de CAN là, que vous aimeriez partager avec nous ?
Le meilleur souvenir, ça va me renvoyer à la CAN 2000, parce que c'était la première, et j'ai eu la chance de commenter la finale et de tomber sur l'une des finales les plus extraordinaires de l'histoire de la CAN, d'après ce qu'on dit aussi les anciens. C'était un scénario incroyable, ça se jouait déjà à Lagos, entre le Nigeria et le Cameroun, qui sont deux voisins et deux rivaux dans le football aussi. Et le scénario, c'est le Cameroun qui mène 2-0 avec des buts de Samuel Eto'o au fils, qui était surtout Samuel Eto'o jeune à l'époque, et puis Patrick Mboma, ils marquent tous les deux, le Cameroun mène 2-0, tout le monde se dit, ça y est, la finale est déjà pliée, mais non, les Nigérians reviennent, une frappe phénoménale de JJ Okocha, vous voyez qu'il y avait des grands joueurs sur le terrain, Eto'o, Mboma, Okocha, et le Nigeria égalise, prolongation, tir au but, Ikpeba qui frappe la barre, qui frappe la transversale, le ballon rebondit derrière la ligne, mais il n'y avait pas l'assistance vidéo à l'époque, la Goal Line Technology. Et donc, le tir au but qui était valable n'a pas été validé. Et tout ça devant 60 000 spectateurs nigérians, vous voyez, dans une
enfin, moi, chaudron.
Je découvrais le football africain de très haut niveau et j'ai été servi. Et le Cameroun a fini par l'emporter chez son grand voisin et rival au tir au but.
Alors, je ne peux pas ne pas vous demander qui sont pour vous les favoris de cette CAN. Sur qui on doit parier, en gros?
Beaucoup pensent aux mondialistes. On est dans une année post-Coupe du Monde, donc le Sénégal n'est pas passé loin de la qualif pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Il a une belle équipe. Le Maroc a fait aussi une belle impression dans le jeu, même s'il a eu un problème d'efficacité devant le but. Donc ces deux équipes-là, elles sont au rang des favoris. Il y en a d'autres, hein. Évidemment. On entend parler du Nigeria, on entend parler de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas. L'Égypte, évidemment, parce que l'Égypte, en général, statistiquement, quand elle organise la CAN, elle la gagne la plupart du temps.
Merci beaucoup, Christophe Jousset.
Merci à vous.
Et je précise que Mondoblog, le réseau des blogueurs francophones réunis par l'équipe de l'Atelier des médias, va être pleinement mobilisé pendant toute la CAN. Mondoblogueur et Mondoblogueuse raconteront la CAN vue depuis les capitales africaines. A bientôt, Christophe.
A bientôt.
C'est bientôt la fin de cette émission et on continue à parler football avec Mondoblog Audio. Raman Bengue, du blog Vivement Dakar, se réjouit que la CAN attire une attention positive sur l'Afrique et pas sur les problèmes du continent.
Pendant la CAN, une mascotte en chasse une autre. Quelle image voit-on habituellement de l'Afrique? Celle de la misère. L'enfant africain, accablé par les mouches, la peau tirée sur les flancs, le ventre gonflé sur des jambes en coton-tige. Cet enfant est devenu la mascotte de l'Afrique. On le voit réapparaître à chaque famine, à chaque guerre, sur les papiers glacés des magazines, sur les écrans des grandes chaînes de télé. Le foot donne le change. La CAN ne doit pas détourner les regards des massacres, des maladies, du terrorisme. Mais cette manifestation donne à voir cette autre Afrique. Cette Afrique qui ne veut plus être un vulgaire grabat, mais un terrain de jeu, de saine passion. Pendant 3 semaines, un bruit singulier va rythmer sur le continent. Le cri sorti des entrailles d'un public de stade, repris avec un léger différé par les radios, les télés, et qui se transforme en un formidable écho dans nos villes, nos quartiers, nos villages. Écoutez cette clameur des stades. C'est l'addition des cris de chaque supporter, repris en cascade par les aficionados, dans les salons, dans les grandes places, dans les entreprises, dans les transports. C'est le pool de l'Afrique qui joue. Pour celui qui s'est prêté l'oreille, il y a dans cette clameur hurlante des accents de la passion, la modulation de joie ou de déception devant le but ou l'occasion manquée. Au-delà de ce tumulte, il y a un message subliminal à capter. Le message des peuples d'Afrique qui, malgré l'adversité et les épreuves, tentent de trouver leur place dans l'histoire. Il y a un formidable espoir en chaque Africain qui s'accroche aux foulées des footballeurs et à leurs exploits sur le terrain. Cette passion collective est un contrepoids au destin souvent tragique du continent. On peut déplorer l'influence grandissante du business, l'emprise croissante de l'argent et des applications technologiques sur le football moderne. Mais pour beaucoup d'entre nous, ce sport reste une école de la vie où nous avons appris la solidarité, le don de soi, l'esprit d'équipe et la franche camaraderie. Dans le jeu des professionnels aguerris, dans le coup de rein enchanteur d'un Sadio Mané, nous recherchons le souvenir d'un geste lointain qui remonte au temps de l'enfance, de l'innocence. Quelque part, dans les rues d'Afrique, un gamin esquisse aujourd'hui le geste qui demain fera vibrer à l'unisson les cœurs. Si vous voulez savoir, c'est là que vient le doux chant, l'âpre chant des stades. En regardant la CAN, je ne rêve pas simplement de la victoire, mais d'une Afrique où chaque enfant pourra tranquillement taper dans son ballon.
Mondoblog.org.
Et c'est un rêve que l'on partage tous avec Raman Bengue du blog Vivement Dakar. Rendez-vous sur mondoblog.org pour retrouver tous les Mondoblog audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Léo Caravagna, Camille Sarrazin et Camille Deloche. À la réalisation, Simon De Creuse, au micro, Steven Jambeau. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse atelier@rfi.fr. Et n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà chose faite, de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.